Je voulais absolument parler de baseball avec mon ami Alex Agostino parce qu'il y a encore beaucoup de bonnes histoires et de belles histoires dans le monde du baseball majeur. Il y en a des moins belles aussi. On va retrouver Alex Agostino à l'instant. Salut Alex.
Salut Derek.
Quand je dis qu'il y en a des moins belles, on va commencer avec ça parce que la suspension de Robinson Cano, ça, c'est venu me chercher. La semaine dernière, Robinson Cano, on a appris la nouvelle qu'il a été suspendu pour 80 matchs en frein à la politique antidopage du baseball majeur. Et ce qui était un petit peu le plus choquant là-dedans, Alex, c'est la réaction de certains de ses anciens coéquipiers comme Mark Teixeira. Alors, Mark Teixeira a joué avec lui, avec les Yankees, avec Robinson Cano, et Mark Teixeira a dit qu'il était nullement surpris que Robinson Cano, qui en passant n'a pas échoué un test antidopage au terme des stéroïdes, mais plutôt un diurétique, donc un agent masquant, la grosse question que je pose, puis je veux te poser à toi, Alex Agostino aussi, il masque quoi, Robinson Cano?
Bien, évidemment, on ne le saura peut-être pas, nous autres, hein, parce que le baseball majeur, comme tu as dit, il n'a pas été testé pour des stéroïdes anabolisants. C'est un produit qui est un diurétique, qui est utilisé des fois pour la haute pression et pour d'autres choses. Alors, est-ce qu'il masque l'hormone de croissance? Est-ce qu'il masque... d'autres sortes de produits que les gars prennent pour garder la forme toute l'année, ça, honnêtement, je ne le sais pas. Mais évidemment, s'il n'a pas été en appel, si les preuves sont là et qu'il a accepté cette suspension de 80 parties, c'est parce qu'il n'est pas blanc comme neige. Et c'est ça que ça vient de chercher, d'après moi.
Écoute, mon texte dans le Journal de Montréal de demain, je pose la question... on se souvient, c'est quoi l'ère des stéroïdes? L'ère des stéroïdes, le baseball majeur définit ça comme une période datant de la fin des années 80 à la fin des années 2000. Est-ce qu'on est encore dans l'ère des stéroïdes, Alex, selon toi?
On n'est peut-être pas dans l'ère ouverte des stéroïdes parce qu'on ne testait pas, puis que tout le monde ou presque prenait quelque chose, que ce soit des amphétamines, que ce soit de la créatine qui était sur les tableaux de chaque joueur, ou tout simplement des gars qui s'injectaient de vitamine B12 ou qui s'injectaient d'hormones de croissance, c'était vraiment plus ouvert. Moi, je pense qu'on est peut-être, on est avancé, mais on pourra jamais éliminer le fléau à cause de l'argent puis à cause des gens qui sont alentour de ces joueurs-là. Le joueur joue, ils ont un agent, ils ont des connaissances, ils ont des amis, puis veut pas, il a dit qu'il y a eu cette prescription-là en République dominicaine, pas mal plus facile puis plus ouvert d'aller chercher ça en République dominicaine que peut-être aux États-Unis. Alors, je te dirais qu'il y a eu des avancements parce que je suis sûr qu'il y a des joueurs qui sont propres. Puis même dans l'ère stéroïde, je suis persuadé qu'il y en a qui étaient propres. Moi, je pense qu'il y en a plus qui sont propres. Mais ce qu'on voit, c'est que le testing du baseball majeur quand même fonctionne. Mais il n'y a pas assez encore de punition ou de négatif qui fait en sorte que le joueur se dit « Hey, si je fais ça, ma carrière est terminée. Okay. » Le joueur se dit encore, « Ah, j'ai une tape ses mains. Oui, je perds 11 millions, mais j'en ai encore un autre 200 qui s'en viennent. Bon, c'est pas la fin du monde. Oui, les gens vont me regarder d'un œil différent, mais moi, je vais bien vivre avec mes millions dans le compte de banque. »
Alex, évidemment, tu parles de Robinson Cano, qui est au beau milieu d'un contrat avec les Mariners de 10 saisons d'une valeur de 240 millions. Et cette suspension-là, c'est ça y coûte 11 millions. Ça risque d'y coûter plus cher parce que ça va y coûter des votes pour le temple de la renommée, mais ça, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais écoute, il y a, depuis le début de cette année, OK, sont rendus, je pense, à 46 joueurs qui se sont fait pincer dans les tests antidopage. 46 joueurs. Je pense qu'il y en a 41 de ceux-là, c'est des ligues mineures. Il y en a 5 dans les ligues majeures, Robinson Cano étant le dernier. Donc, toi, là, tu dis que la façon de corriger ça ou de possiblement décourager les joueurs de le faire, c'est que le contrat, comme dans le cas de Robinson Cano, Il est annulé. Le contrat n'existe plus. Est-ce qu'il faut qu'ils remboursent l'argent, les gars, ou comment tu vois ça?
Bien, c'est faut que les punitions soient plus sévères. S'ils veulent enrayer ça, la première question, Derek, est-ce que le baseball majeur, les propriétaires inclus, veulent enrayer ça à 100%? Parce que là, c'est des punitions. Oui, il faut que tu t'entendes avec l'association des joueurs. L'association doit protéger ses joueurs. Mais là, l'association, comment qu'elle protège des tricheurs versus des joueurs dans la même association qui, eux, ne trichent pas? Alors, si tu veux vraiment enrayer ça, un, la punition doit être plus longue. Suspension d'un an, peut-être. Et deux, peut-être que la balance de ton contrat, mais tu sais, oui, la balance de ton contrat, mais si le gars, il reste 6 mois dans son contrat, il n'est pas vraiment perdant. Tu sais, il se dit, j'ai été payé, j'essaie de me chercher un autre contrat. Mais il faut que la punition soit plus sévère.
Alex,
ils ont augmenté un peu. Là, Robinson Cano, là, les Mariners connaissent une bonne saison. Si les Mariners se ramassent dans les séries pour la partie du wild card, Robinson Cano ne pourra pas participer aux séries.
Exact.
Ça, ça fait mal à l'équipe. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas assez encore. Moi, je pense que c'est que la suspension doit être plus longue et ça va prendre aussi des joueurs. Pas Mark Teixeira à retraite qui dit « Ah, ça me surprend pas. » Des joueurs qui sont là aujourd'hui. Mike Trout, tu sais, les vedettes, ouais. Bryce Harper, Max Scherzer, les jeunes vedettes du baseball majeur qui se lèvent, ou peut-être certains anciens, que ce soit des Derek Jeter de ce monde qui est propriétaire aujourd'hui. Mais ont-tu peur de parler, Derek, parce que peut-être eux aussi, ils ont fait des choses, mais ils n'ont jamais été pognés? C'est ça, là, qu'il faut que tu te poses comme question.
Ben, j'aime pas. Puis le pire, c'est que les réponses, souvent, quand je me pose ces questions-là, j'aime pas les réponses que je me donne. Hey, je veux parler de ton équipe parce que Alex Agostino est un dépisteur des Phillies de Philadelphie. Ce soir, ça commence une série entre les meneurs dans l'Est de la Nationale, les Braves d'Atlanta et les Phillies de Philadelphie. Wow!
Oui. Qui aurait dit ça, hein, début de saison, que fin mai, une série brave, Phillies aurait des implications pour la première position, tout en sachant que les Nationals jouent de mieux en mieux. C'est des bons jeunes, deux équipes avec de bons jeunes joueurs. Les Braves d'Atlanta, quand tu parlais de belle histoire, c'en est une. Ozzy Albies, Ronald Acuna, Freddie Freeman, ils ont une belle petite équipe avec un vétéran comme Markakis qui va bien, leurs lanceurs font le bon travail. Alex Anthopoulos est arrivé vraiment au bon moment. Puis du côté des Phillies, les jeunes joueurs font le travail, les lanceurs. T'as un gars comme Odubel Herrera qui hier était la première fois qu'il ne se rendait pas sur les sentiers en 45 parties. Il s'était rendu sur les sentiers toute la saison,
ouais.
Au moins une fois par partie, incluant un couple de parties l'année passée. C'est le fun de voir des équipes, tu sais, qui ont quand même des bonnes traditions, Atlanta et Philadelphie, qui ont eu des années un peu de vache maigre, de revenir avec le réseau de développement qu'ils ont eu avec des joueurs de notre côté, tu sais, comme Rice Hoskins qui est dans l'alignement, Scott Kingery qui est dans l'alignement, Michael Franco connaît des bons moments, avec un vétéran comme Arrieta et Santana qui commencent, tu sais, à produire pour l'équipe. Alors, c'est une belle série, c'est à Philadelphie, commence à faire beau. Très, très intéressant. Puis, c'est, au lieu d'avoir une division où c'est les Nationals qui s'en allaient tranquillement avec aucune compétition, ben là, tu as deux équipes qui vont les talonner toute l'année, sans compter que les Mets de New York ont eu tout un début de saison, un petit peu de léthargie, puis là, ils commencent à gagner un petit peu. Ça te donne une division où 4 équipes se battent pour le championnat, même si c'est encore tôt.
Les gens qui suivent le baseball, Alex, ils savent que Gabe Kapler, nouveau gérant des Phillies, il avait pas d'expérience comme gérant avant. Le monde savent que ça a commencé, c'était rough un peu le début pour Gabe Kapler. Ouais. Et je pense en grande partie, là, Alex, corrige-moi si j'ai tort, je pense que Gabe Kapler, initialement, est arrivé là avec son plan et lui, il s'était dit, les joueurs vont devoir s'ajuster à moi. Je pense qu'il a appris la dernière semaine que c'est un peu le contraire. Tu peux arriver avec un plan, mais c'est toi qui dois s'ajuster aux 25 joueurs. Puis je pense que ça, il l'a compris, puis il fait beaucoup mieux dans les dernières semaines.
Ben, disons que la première semaine, pour venir rapidement, il a pris des décisions aussi que tu te dis « wow ». C'est pas des décisions peut-être qui ont tourné tous contre lui. Un exemple, tu avais Nola la première partie de l'année, il y avait un blanchissage, tu gagnes 5-0, 60 cuques lancés, puis tu l'enlèves parce que tu l'as des match-up en pour la troisième fois que les gars allaient l'affronter, puis ta relève donne 6 points, tu vas chercher un releveur gaucher, il n'a pas lancé un pitch encore, ça c'était un petit peu de manque de communication, mais depuis ce temps-là, je pense qu'il a fait les ajustements, c'est un gars brillant, on l'a rencontré lors de nos assises, nous autres au mois de janvier, très engageant avec tout le monde, il parle d'une équipe, il parle d'un plan, comme tu viens de mentionner, mais aussi derrière Gabe Kapler, il y a des gars comme Sam Fuld, qui vient de prendre sa retraite comme joueur, qui est un peu le lien entre les joueurs, les statistiques avancées du bureau et Gabe Kapler, qui travaille à la journée longue à préparer le plan avec Kapler, puis d'expliquer aux joueurs c'est quoi le plan qui s'en vient, pour pas que Kapler soit le seul maître à bord dans ce côté-là, puis que Kapler dirige sa formation un moment donné comme il veut, parce que on a eu des discussions très ouvertes avec notre DG, Matt Klentak, où on a le droit de poser des questions de comment ça va aller, puis jamais que la direction dit à Kapler, il faut que tu fasses tel mot, il faut que tu utilises tel chiffre. C'est de l'information qui est donnée au personnel entraîneur, et par la suite, le personnel entraîneur prend les meilleures décisions pour l'équipe. Et là, ben c'est ça, il a vu qu'à un moment donné, notre première partie, à cause de statistiques avancées, Odubel Herrera, Jorge Alfaro n'était pas dans l'alignement, ainsi que Kingery. Ah, c'est trois outils offensifs dans l'équipe que tu as besoin, puis des fois, les statistiques avancées ne disent pas tout. Mais t'as raison, puis je pense qu'il a fait les ajustements. T'sais, il a quand même été hué à la partie d'ouverture à Philadelphie. C'est un contrat de 3 ans. Mais là, les hués ont cessé, les foules commencent à être meilleures. T'as des joueurs qui ont été élevés dans les filiales, que ce soit Kingery, Hoskins, Aaron Altier, c'est tous des bons jeunes joueurs qui ont gagné dans les ligues mineures puis qui s'aiment. Puis ça, tu le sens dans les réunions, tu le sens dans les pratiques d'avant-match, dans les discussions qu'on a le privilège de faire partie de temps en temps. Ben, puis moi, j'écoute un gars comme Hoskins après, ils veulent gagner à Philadelphie. Puis les partisans sont peut-être durs, mais ils vont tourner de bord assez vite.
Alex, aussi, il y a Pivetta, le Canadien, qui était au bondicule en ce moment. Oui. Ça aussi, c'est une belle histoire. Écoute, j'ai 30 secondes. Peux-tu juste me donner un petit commentaire sur la libération de José Bautista, des Braves, justement?
Ben, très, très rapidement, 5 en 35, il n'y a pas grand-chose à dire. José Bautista a eu une très belle carrière dans le baseball majeur, mais la conclusion, c'est que probablement... son temps est terminé. Il y avait la bonne place. C'était Alex Anthopoulos qui était là. Il a donné une chance. Anthopoulos pensait peut-être avoir un vétéran qui pouvait aider l'équipe. Ils ont décidé que c'était Johan Camargo, le jeune troisième but, qui allait faire la place. Et c'est peut-être malheureux dans ce cas-ci, mais tu sais, comme tout bon joueur, des fois, il y a une fin. Et bonne chance pour la reste des choses pour M. Bautista.
Hey, t'es bien fin. Alex, t'es où en ce moment? Là? T'es-tu à la côte est en quelque part? Es-tu à Boston?
Demain, je pars pour la Nouvelle-Orléans. Honnêtement, aujourd'hui, je viens de voir la fin de la partie de mon fils à Balma, avec ses chums.
Ah, OK.
Les gars que j'ai coachés. Demain, je suis en direction de Biloxi, Mississippi pour le tournoi Conference USA, la NCAA, là, qui prépare les gars vers le tournoi là au Nebraska.
Alex Agostino, merci d'avoir pris le temps. Profite de ta soirée, mon chum.